France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Éric Delvaux, bonjour Karine.
Bonjour.
Journaliste, écrivain, récompensé de plusieurs prix pour votre dernier roman, Mohican. Je rappelle que vous avez dirigé le journal Le Monde, vous avez cofondé l'hebdomadaire Le 1, également les magazines Légende, Zadig, sans oublier le trimestriel America. Et voilà que vous publiez dans Le 1, justement, un texte d'un rare cynisme, une fable violente, dérangeante, autour des migrants. Ce sera d'ailleurs bientôt une pièce de théâtre, on en parlera en fin de cette interview. Le titre, à lui seul, dérange. Ça s'appelle « La pêche du jour ». Rencontre avec ce pêcheur de migrants entre les îlots de la mer Égée. Il pêche des hommes, des femmes, des enfants morts d'épuisement, comme d'autres pêchent des barres de ligne pour en faire commerce. Et ça questionne évidemment notre rapport à l'humanité, on va en reparler. Qu'est-ce qui vous a incité à choisir cette parabole de la pêche, là où on parle d'habitude de repêchage des migrants en difficulté?
J'avais l'impression que, justement, les mots ne disaient pas exactement ce qu'on voyait. J'avais le sentiment qu'on était une société cannibale, qui laissait s'accomplir le drame par la mer. Et que finalement, ce qu'on repêchait, c'était notre mauvaise conscience et notre responsabilité. Donc, si vous voulez, cette nouvelle, elle est née vraiment d'une sorte de nausée et aussi de fatigue des mots. Vous voyez, il y a des pétitions, il y a des tribunes, il y a des cris, et à un moment donné, peut-être qu'il faut redonner de l'énergie aux mots.
Et quand il y a la fatigue des mots, il y a souvent le cynisme. Hein, c'est un texte d'un grand cynisme quand ce pêcheur qui vend du migrant comme d'autres vendent du poisson, dit vouloir soulager les migrants, mais à sa façon.
Oui, c'est-à-dire que face à ce qu'on voit aujourd'hui, j'avais envie de... Enfin, je ne sais pas si j'avais envie en réalité. Je pense que cette voix, je l'ai entendue. Je me souviens d'un soir où j'ai entendu cette voix qui me disait finalement le yéménite est plus fin que la bonite. Et j'étais avec ça et je pouvais pas rester avec cette phrase.
L'ébène comme les négriers dans les bateaux.
Le bois d'ébène. Et donc, si vous voulez, je crois que c'est notre incapacité à voir à quoi nous sommes en train de nous habituer. On est en train d'accepter, au nom de nos démocraties, au nom de notre protection, ce qui est inacceptable.
Mais ce personnage du pêcheur qui effectivement... Oui. Très dérangeant, très violent, très cynique, comme le dit Éric, qui vend sur ses étals des migrants qu'il a hameçonnés dans la mer Méditerranée. Il représente qui, ce personnage? Vous mettez qui, en fait, derrière ce personnage?
C'est nous. De la même manière qu'il y a un homme qui le questionne, qui est probablement un client, et ils sont les deux faces d'un même visage. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas savoir. À un moment donné, il dit « quand vous tuez, c'est avec nos mains ». Et donc, je pense qu'en fait, c'est cette espèce de grande passivité au nom de « on ne peut pas soulager toute la misère du monde, il y a probablement des terroristes, etc. ». C'est des gens misérables, alors que non, c'est pas des gens misérables, c'est leur condition qui est devenue misérable. Et donc, voilà, il est une face de nous.
Mais avant de devenir pêcheur, il était, alors dites-vous dans votre nouvelle, oui, professeur d'humanité. Ça peut paraître un peu caricatural, mais qu'est-ce qui l'a transformé? Qu'est-ce qui nous a transformé?
Ce qui nous a transformé, c'est que au fur et à mesure, les chiffres, quelquefois très spectaculaires, ne le sont plus devenus. Les images très choquantes ne le sont plus devenues. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'est habitué. On s'est habitué et on a mis, laissé la responsabilité ou l'irresponsabilité tomber dans l'eau, puisque c'est vraiment là que ça se passe. Et comme vous voyez, on parle beaucoup des passeurs aujourd'hui, mais il n'y aurait pas de passeurs s'il n'y avait pas de frontières fermées. Donc c'est là, je pense, que à la fois les États et les citoyens sont complices d'un immense massacre. Le pape, l'autre jour, a parlé de naufrage de la civilisation. Et je pense que c'était ça, d'une certaine manière, presque inconsciemment, que j'ai voulu dénoncer parce que il me semblait que autrement on allait devenir encore plus cette société cannibale.
Et plusieurs fois dans ce récit, les mots du pêcheur résonnent avec notre actualité de cette pré-campagne électorale quand les migrants sont assimilés à des violeurs qui menacent, qui nous menacent. C'était une volonté de départ pour vous de voir cette fable faire écho à ce que l'on entend en ce moment.
Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que à un moment donné, je pense que il faut, j'allais dire, dépayser la parole, ne plus la laisser bien rangée avec des mots habituels auxquels aussi, justement, on a fini par s'accoutumer. Là, ce que je voulais, que la force vienne de la forme. Et la forme, c'est ce dialogue qui met très mal à l'aise, qui me met très mal à l'aise entre ce pêcheur et ce possible client, qui sont probablement chacun est un visage du diable, est un visage aussi de sauveur. Ce pêcheur, il incarne le mal, mais pas que. Et celui qui veut acheter incarne peut-être une forme de bien, mais pas seulement.
Ce qui résonne dans l'actualité à ce propos, c'est quand les discours humanistes sur les migrants sont accusés d'être naïfs. Là encore, ça rappelle quelque chose de très actuel.
Oui, parce que je pense que, si vous voulez, on est en train de se dénaturer en mettant des mots ensemble qui ne vont pas ensemble. Par exemple, crime de solidarité. Si c'est un crime, ça ne peut pas être la solidarité. Or, aujourd'hui, si vous prenez Cyril Héroux et d'autres qui ont été condamnés puis finalement ils ne l'ont pas été, mais
des personnes qui faisaient entrer des
solidaires, c'est ce qu'on a appelé les solidaires de Briançon. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est en train de se dénaturer lorsqu'on oublie d'être humain. Et je pense que cette humanité qu'on ne veut plus appliquer à l'autre avec un grand A, c'est une manière pour nous de ne pas voir le réel. C'est-à-dire le réel, sont des gens qui rentrent, qui sortent. Vous savez, nous, qui sommes dans ce studio, on peut, avec notre passeport, aller dans 180 pays. Un Afghan, un Irakien, un Kurde, il peut aller dans 3 ou 4 pays.
Alors, je suis un peu gênée dans ce texte, au moment où vous faites référence, et d'ailleurs vous le faites référence à plusieurs reprises, à la traite des Noirs. Est-ce qu'on peut comparer ce système de la traite des Noirs, qui est un système qui a été volontairement institué, avec une situation, la situation migratoire, qu'on n'a pas demandé et qu'on se retrouve à devoir gérer. Cette comparaison, moi, elle me dérange, elle me semble mal à propos.
Enfin, pour moi, on est complètement dans la... C'est la même chose. C'est la même chose parce que quand vous dites on a créé la traite et la...
C'est un système qu'on a décidé de mettre en place.
Oui,
enfin, certains États ont décidé de mettre en place, dont la France.
Il a les mêmes conséquences. Il a les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'on exploite des gens. Vous savez, les migrants travaillent dans l'automobile, dans le bâtiment, comme des esclaves. Vous savez ça. Et donc, si vous voulez, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la même genèse d'un fait historique que vous n'en avez pas les mêmes conséquences.
Donc... Bah si, pour les solutions. Parce qu'un système que je mets en place, je peux décider de le stopper. Un système que je subis, que je dois affronter, il faut que je trouve des solutions. Et en l'occurrence, c'est là la difficulté. On trouve pas de solution face à cette crise migratoire, si ?
On trouve pas de solution parce qu'on ne veut pas les trouver. Je veux dire par là que c'est... Regardez ce qu'a fait l'Allemagne. Angela Merkel, on l'a beaucoup critiquée en 2015, elle a sauvé l'honneur de l'Europe. 1 million de migrants à peu près qui sont entrés. Qu'est-ce qu'on a fait ? On les a alphabétisés en allemand, c'est-à-dire qu'ils ont fait 800 heures d'allemand et on les a intégrés dans le système de travail. Donc si vous voulez, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution dans nos têtes parce qu'on ne veut pas. Et donc si vous voulez, le parallèle entre la traite, encore une fois, c'est un pamphlet. C'est bien sûr que je suis pas allé voir si les conditions historiques étaient les mêmes que la traite, elles ne le sont pas. Mais pour moi, c'est toujours l'autre, souvent le noir, mais pas seulement, le coloré, le basané, celui qui nous ressemble pas. Et donc à partir de là, pour moi, des causes différentes emportent les mêmes effets.
Mais la solution, c'est forcément juste ouvrir les vannes ?
Mais est-ce que vous pensez qu'en fermant les frontières, les gens voudront toujours passer ? Et si vous ne les ouvrez pas, on aura exactement ce qu'on a. Regardez ce qui s'est passé à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie. Si on avait laissé entrer ces migrants, comme le dit d'ailleurs François Gémen ou Catherine de Vindel dans le 1 de cette semaine, on n'aurait pas du tout eu cette... Vous savez que les policiers laissent quelquefois passer des femmes, des enfants et des hommes aussi, mais dans les rivières, ils les regardent. Ils les regardent, ils voient qu'il y en a un qui passe et un autre qui se noie. Donc c'est des choses aussi tragique, je pense qu'on ne les aurait pas si l'Europe avait dit non, ben on va les laisser rentrer.
Des passeurs que vous décrivez effectivement, et Karine y revenait, comme les négriers du Nouveau Monde. Votre pêcheur, votre héros, dit que les passeurs jouent sur les deux tableaux, c'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que à la fois ils sont les États qui sont par exemple la Turquie, qui sont la Libye, eh bien l'Union européenne leur donne beaucoup d'argent, des milliards d'euros, pour qu'ils les retiennent, et en même temps ils les laissent partir et ils les rançonnent de telle manière que de toute façon ils vont mourir très souvent. Donc ils ont à la fois l'argent des États et ils ont l'argent des familles. Qu'ils ont d'abord, quand ils ont pris des migrants, quelquefois ils les ont emprisonnés très longtemps, torturés, en attendant d'avoir de l'argent. Donc ils ont l'argent sur les deux tableaux.
Et les États aussi, et les chefs d'État, certains jouent aussi sur les deux tableaux. C'est le cas de Erdogan qui menace d'ouvrir les vannes si l'Europe vient lui chercher des poux.
Ils sont plusieurs États à faire ça. C'est Erdogan, c'est aussi le Maroc de temps en temps. Quand il y a un conflit avec l'Espagne qui se règle pas, on fait un lâcher de migrants pour venir faire pression sur les frontières des pays comme l'Espagne, donc de l'Europe. Donc il y a un cynisme au carré.
Parce que quand certains parlent d'immigration zéro en ce moment en France, vous, vous dites que l'immigration, elle est finalement inhérente à la mondialisation, à la globalisation. Mais ça ira de pair.
Mais bien sûr, parce que d'abord, il y a l'économie, et j'ai encore entendu M. Roux-de-Bézieux récemment dire il faut simplifier l'arrivée des travailleurs étrangers. Il y a l'économie, il y a l'écologie, on voit bien que les migrants climatiques vont être de plus en plus nombreux. Si vous voyez, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la pointe avancée de ce que sera le 21e siècle, de ce point de vue-là.
Vous êtes très dur hein, avec les politiques. Je vous cite « Je sais ce qu'ils ont dans le ventre, écrivez-vous, du vide et des mensonges, des discours aussitôt contredits par leurs actes. » En fait, on a tout vu, moi j'ai plutôt envie de dire, on a vu des candidats aux discours musclés, et puis qui se sont adoucis finalement au contact de la réalité, et inversement, on a vu des candidats plutôt humains, qui se sont rapidement fermés. Donc, si on essaie d'analyser un peu les choses, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Est-ce que les politiques sont rattrapés par des calculs tristement, bassement électoralistes, ou est-ce qu'ils se heurtent, est-ce qu'ils se cognent tous, un par un, à la difficulté de gouverner, tout simplement ?
Oui, moi je pense que c'est les deux. Damien Carême, que j'ai interrogé dans ce numéro du 1, par exemple, dit qu'il a vu défiler tous les ministres de l'Intérieur, hein, de gauche, de droite, etc., qui ont toujours eu la même expression, c'est l'appel d'air. Pourquoi on ne va pas garder des migrants à Calais ? Parce que si on commence à leur donner des douches, un toit, etc., ils vont affluer par dizaines de milliers. C'est faux, c'est absolument faux. C'est pas parce qu'on a un geste humain.
Mais comment vous pouvez dire que c'est faux ?
Mais effectivement, ça n'a jamais fait ça. Quand on les a traités à Sangatte, quand on les a traités dans d'autres endroits, on leur a donné justement des toits, on n'a pas vu des hordes de migrants, comme dit le discours d'extrême droite. Mmh. Donc c'est faux. C'est-à-dire qu'on est en train, dans les accords du Touquet par exemple, on fait la police de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que la frontière, elle n'est pas en Grande-Bretagne, elle est en France. Donc on interdit à des gens de bouger et on leur donne aucune possibilité de vivre décemment, de prendre une douche, d'avoir du chaud, etc. Donc c'est là que je pense qu'il y a vraiment un vrai problème humain de la part des dirigeants, c'est de ne pas voir ça, c'est-à-dire la moindre des choses, qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qu'on met dans des situations de bêtes.
Et pour poursuivre ce chapitre politique, comment qualifiez-vous, Éric Fautorino, la politique migratoire de la France entre fermeté et compassion ? C'est une nouvelle version du en même temps ?
Oui, enfin moi je suis très critique parce que c'est une politique que ce qu'on appelle du non-accueil. C'est qu'on considère, disons que le point de départ, c'est qu'on considère qu'un migrant est malvenu, est quelqu'un de dangereux, est quelqu'un de superfétatoire.
Alors on a vu le discours d'Emmanuel Macron changer hein, quand il était candidat, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Très ouvert, enfin en tout cas très humain. Oui. Et puis effectivement, face à la réalité du pouvoir, en fait c'est ce que je laissais entendre, il s'est fermé progressivement.
Oui, parce que qu'est-ce que veut Emmanuel Macron ? Il veut un deuxième tour avec Marine Le Pen. Quand vous faites un calcul politique comme celui-là, ben vous allez montrer des signaux pour que cet électorat-là, il se dise, ben après tout, Macron, il peut aussi faire le boulot. Donc c'est là que je pense qu'il y a un cynisme absolu sur la question des migrants, qui est effectivement, avec les candidatures d'extrême droite qu'on voit aujourd'hui dans le paysage, on a vu dans la primaire des Républicains, par exemple, des gens courus comme Barnier courir derrière Ciotti et Zemmour. Donc, si vous voulez, je pense, mais c'est très grave, parce que c'est ce langage-là qui accrédite l'idée que quand on a des migrants, on est un pays menacé dans son identité.
Mais vous posez une question très intéressante, c'est celle de la complicité, de notre complicité. Vous dites, voilà, on est complice de ces politiques qui sont appliquées aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne réagit pas, si on ne s'y oppose pas, si vous voulez, les complices.
Si vous voulez, pour moi, c'est là le point central. C'est-à-dire que effectivement, on peut dire c'est les dirigeants. On peut dire voilà, ils font de la politique ou de la base politique. Mais en fait, si on accepte, on sera complice tout pareil de chaque mort en Méditerranée ou de chaque personne refoulée pour de mauvaises raisons. Donc oui, moi je trouve qu'aujourd'hui, quand on voit l'hécatombe de Méditerranée avec celle qui commence dans la Manche, elle n'a pas commencé il y a 15 jours, elle a commencé depuis 99. Je pense qu'effectivement, on pourra être en droit de nous dire que qu'est-ce que vous avez dit, vous ?
Mais est-ce qu'on est complice face au candidat à la présidentielle Zemmour quand on lui laisse la responsabilité de ses propos ?
Ben bien sûr, moi je pense qu'à chaque fois qu'on a cet individu en face de nous, il faut contester chacune de ses affirmations lorsqu'elles sont délirantes.
C'est ce qu'essayent de faire les journalistes ou les contradicteurs,
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut le faire, il faut continuer de le faire.
Certaines critiques aussi dans cette fable sur les médias. Votre héros le dit... Il y a pas mal de temps qu'on n'a pas vu un reporter dans les parages. Le cadavre africain ne fait plus recette. En êtes-vous si sûr quand on voit les médias fonctionner surtout sur l'émotion ?
Si vous voulez, je pense que bien sûr qu'il y a encore des médias, heureusement, qui font leur travail et qui vont voir ce qui se passe partout dans ces sortes de charniers. Mais c'est vrai que la capacité des médias à renouveler le sujet est quand même, c'est amoindri. Regardez cet enfant, il y a en 2015. Il y en a eu plein d'autres depuis.
Le petit Alan.
Oui, voilà, exactement. Il y en a eu plein d'autres depuis. Et si vous voulez, Damien Carême prend un exemple d'un enfant dont on a retrouvé le corps qui était parti de Calais, de Grande-Synthe, qu'on a retrouvé à 1400 km en Finlande. Pas une ligne, pas une photo. Donc si vous voulez, les médias s'émoussent aussi parce qu'à un moment donné, c'est moins neuf. On s'habitue, les chiffres, on s'habitue.
Cette fable intitulée La pêche du jour, qui est publiée donc jusqu'au 5 janvier dans le...
Alors on l'a prolongée jusqu'au 30 janvier, effectivement le journal fait beaucoup réagir.
Elle va devenir, cette fable, une pièce de théâtre au rond-point des Champs-Élysées à Paris. Ça va se traduire comment ?
Si vous voulez, ça a été assez étonnant parce que mercredi dernier, le comédien que j'admire beaucoup, qui est Jacques Weber, a eu cette fable entre la gorge, quoi. Et sa colère, il m'a dit, ta colère, c'est la mienne. Et donc,
il va incarner le rôle du pêcheur.
Il va incarner le rôle du pêcheur. À partir du 20 janvier au rond-point, il jouera 4 soirs par semaine, du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les recettes seront reversées à une association humanitaire. Probablement, on est en train de la choisir, mais j'aimerais qu'elle soit très proche, justement, des repêchages en mer. Donc, Weber, à partir du 20 janvier, c'est vrai que pour moi, c'est ces mots qui vont...
Et vous espérez créer le débat au moment de la présidentielle et au moment où la France prend la présidence de l'Union européenne ?
Il va le jouer pendant 4 mois. Donc, il va le jouer, évidemment, dans un calendrier qui vous échappe pas, et celui de la présidentielle.
La pêche du jour, donc, cette nouvelle que vous signez, Éric Fotorino, en supplément du 1, donc, jusqu'à fin janvier.
Fin janvier, avec des dessins d'Edmond Baudouin, qui était lui aussi très impliqué.
Très beau, effectivement. Et puis je signale aussi ce numéro de fin d'année du 1. Migrants, sommes-nous encore humains ? C'était le débat de ce matin. Merci beaucoup Éric Fotorino d'être passé nous en parler ce matin sur France Inter.